débat.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démo et Débat, l'épisode 72. Démo et Débat, je vous rappelle le concept, c'est le podcast où on critique vos livres. En effet, vous nous envoyez vos listes de livres à podcastdmed@gmail.com. Tous les mois, on tire au hasard parmi la liste des livres que vous nous avez envoyés et on critique trois œuvres. Au menu aujourd'hui, nous avons beaucoup de pages puisque nous avons tiré au sort Les prépondérants de Eddie Cadour, Le serpent et la lance de Hube et L'arbre monde de Richard Powers. Pour critiquer ces trois œuvres avec moi, j'accueille deux nouvelles venues dans le podcast Démo et Débat. Bienvenue Charlotte.
Bonjour Mehdi.
Quelle est ta phrase du mois ?
Alors ma phrase du mois, c'est une phrase d'Amélie Nothomb dans le livre Antéchrista. Ceux qui croient que lire est une fuite sont à l'opposé de la vérité. Lire, c'est être mis en présence du réel dans son état le plus concentré.
Très bien. Et j'accueille Victoria. Bonjour Victoria. Quelle est ta phrase du mois ?
J'ai décidé de citer un extrait de la chanson « Tôt le matin » de Gaël Faye. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes, se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible. Si l'on veut reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu.
Et ma phrase du mois est tirée de la poétique de l'espace de Gaston Bachelard. La forêt est un état d'âme, les poètes le savent.
Wow.
Et on va passer maintenant au cœur du podcast, les critiques.
800 pages de trompe,
c'est si bon.
Oh, c'est si bon.
15 chapitres pourris.
C'est extra.
Et on va commencer les critiques avec les prépondérants de Eddie Cadour, et c'est moi qui vais vous le présenter. Pour la petite anecdote, Les prépondérants, le roman de Eddie Cadour, a reçu en 2015 le Grand Prix du roman de l'Académie française, ex aequo avec 2084, La fin du monde, que nous avons critiqué dans l'épisode 69. Et nous avions à l'époque tous détesté l'œuvre de Boualem Sansal, donc le suspense est total sur les prépondérants. C'est un livre qui nous plonge dans une ville fictive, Nabès, dont le pays n'est jamais nommé, mais l'on pense fortement à la Tunisie, qui est le pays de l'auteur, puisque c'est un pays du Maghreb sous protectorat français qui est dessiné tout au long du livre. Et le livre se déroule au début des années 20. On y suit plusieurs protagonistes qui vont de, que ce soit du côté des Arabes, comme Raouf, le fils du caïd, personnalité importante de l'administration tunisienne, qui est quand même sous contrôle français. Du côté des Français, on en suit notamment Gantier, un colon qui va se lier d'amitié avec Raouf. Mais on suit aussi des Américains, puisqu'une équipe de cinéma va s'installer au Maghreb le temps d'un tournage et vont eux aussi créer des liens un peu ambigus avec la population locale, mêlés de fascination, de domination et d'amitié. Et toutes ces personnes très différentes se retrouvent car ils sont les prépondérants du titre du livre, c'est-à-dire des personnes qui se retrouvent car leur statut social de élite, on va dire, leur permettent de dépasser les différences liées à leur nationalité. Et le livre va suivre ce groupe de personnages à travers plusieurs années et plusieurs pays. Et ça donne un livre très riche, très dense, qui brasse de nombreuses thématiques et qui demanderait de nombreuses heures de discussion pour tout analyser. Mais pour l'instant, je vais juste me contenter de dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre qui m'a emporté dans une époque finalement assez peu traitée, je trouve. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'évolution de leurs relations, la façon dont l'auteur retranscrit toute la complexité des liens qui les réunissent et les séparent. Bref, c'est une lecture que j'ai trouvée passionnante. Et est-ce que ça a été votre cas, Victoria ?
Merci pour ce partage. juste, si je peux revenir avant de répondre sur ce que tu as dit. Je pense que tu as oublié un personnage important. Tu n'as pas parlé, alors que le livre s'ouvre sur sa vie. C'est Rania. Voilà.
Oui, oui, j'en ai laissé volontairement certains et certaines de côté parce que je pense que c'est un point qu'on va beaucoup aborder, la place des femmes dans le livre, Rania, mais aussi Catherine, Catherine, Gabrielle, qui sont aussi des personnages assez passionnants. Mais du coup, j'en reviens à ma question. Victoria, tu ne t'échapperas pas comme ça. Est-ce que tu as aimé les prépondérants ?
Oui. J'ai trouvé que c'était une lecture pas forcément facile à aborder, surtout dans le style d'écriture. Avec des très longs passages de description. Et en fait, toutes les descriptions, même les dialogues, sont dans la description. Mais très intéressant, justement, de pouvoir être plongé dans les émotions et les sentiments de chaque personnage. Par contre, petit bémol, je trouve qu'il y a des histoires qu'on n'a pas assez approfondies et des choses qui sont restées en suspens et qui, justement, auraient dû... auraient permis d'ouvrir quelque chose de différent et qu'on est vraiment centré sur des relations humaines très compliquées et en nous donnant à espérer d'entendre et de lire des choses intéressantes et au final ça n'arrive pas.
T'aurais voulu un livre plus long alors finalement?
Non, je pense qu'on aurait pu couper certains passages de description.
Charlotte.
Déjà, moi, je suis très contente. Donc, j'ai beaucoup aimé le livre. Je suis contente d'avoir pu le découvrir parce que de moi-même, je pense que je ne me serais pas tournée vers un livre comme ça. Donc, je crois que l'objectif du podcast est réussi sur ça. Moi, je suis d'accord avec vous sur une partie des choses, mais pas sur tout. Moi, j'aime beaucoup les livres qui ne te disent pas tout. Et je trouve que là, il laisse vraiment... l'esprit du lecteur imaginer ce qui peut se passer, notamment avec l'histoire qui est peu développée. Je pense que c'est à ça que tu fais référence, de Rania, la jeune maghrébine, la veuve, mais qui est jeune. Et aussi, oui, c'est ce que je voulais, ce qui m'a fait tiquer, Mehdi, quand toi t'as décrit le titre. Pour moi, les prépondérants, c'est justement pas le groupe qu'on suit dans le livre, et ce qui est expliqué par la tenancière du bar, les prépondérants. Pour moi, les prépondérants, ce sont les colons. Enfin, c'est pas le groupe vraiment qu'on suit, je trouve. C'est plutôt les colons qui viennent et français et qui se pensent supérieurs aux Arabes qui dominent totalement et sur qui ils ont une emprise totale. Donc, je sais pas, pour moi, c'est pas tout à fait...
Je pense qu'il y a un peu de tout parce que le mot prépondérant est employé dans le livre à un moment pour décrire un groupe de jeunes hommes très précis qui se réunissent dans un café
et qui s'appellent
les prépondérants. Et là, c'est des jeunes hommes arabes en partie qui sont un peu dans l'élite de la région parce qu'il y a Raouf.
Ça, c'est la porte du sud.
Ah, c'est la porte
du
sud.
En fait, il y a une confusion dans le livre. Je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu difficile de suivre. Parce qu'il y a le bar, les prépondérants, où c'est vraiment que dans la ville européenne.
Ah oui, là où se rejoignent les Américains,
voilà,
etc.
Exactement. Oui, et, et d'ailleurs, ils sont jaloux parce qu'après, il y a les Américains qui arrivent et qui vont au Grand Hôtel et qui font leur soirée au Grand Hôtel. Et là, les femmes qui vont au bar, les prépondérants, se disent qu'elles ne sont plus...
les bienvenues.
Elles ne sont pas les bienvenues là-bas, ce n'est pas leur lieu. Et il y a la Porte du Sud qui est un autre... je ne sais pas si c'est très intéressant de
parler mais de ça. Si, mais... je pense que c'est très, très intéressant parce que le livre joue beaucoup sur justement ces relations de pouvoir entre les individus parce qu'on suit des personnages et des personnes qui ont tous des statuts un peu particuliers. Par exemple, et c'est symbolisé par le personnage de Raouf qui est arabe, donc dominé, mais qui est quand même parmi les dominants au sein des Arabes parce qu'il est le fils du caïd. Et sa position est toujours un peu étrange parce qu'il se lie d'amitié avec un colon qui représente tout qui est l'avatar un peu de ce système de domination des Français sur les Tunisiens. Et en même temps, il joue beaucoup le rôle de celui qui va militer pour l'indépendance
révolutionnaire
jusqu'à un certain point où finalement il n'est pas totalement non plus parce qu'il se rend compte que... il est un peu attaché à son confort matériel quand même. Enfin, il est toujours un peu dans une sorte d'ambiguïté. Et beaucoup des personnages, et c'est ce qui fait, je trouve, la force de l'œuvre, c'est que tout est assez nuancé, en fait. Il n'y a pas de méchant ou de gentil. Il y a des dominants et des dominés, mais ils le sont tous par rapport à quelqu'un. Et je trouve que l'idée géniale du livre, c'est aussi ces Américains qui rentrent dans aucune case et qui sont à la fois qui comprennent pas le système de colonisation parce qu'ils disent c'est de l'ancien temps. Nous, on s'est libéré des Anglais, donc on a presque envie d'être avec les dominés, les Arabes. Mmh. Mais on se rend compte aussi que dans leur façon d'être,
ils aiment leur domination.
Que c'est des Occidentaux qui dominent même les Européens avec l'argent, avec.
Ils exploitent les enfants.
Exactement.
Mais en fait, cette contradiction, elle se voit dans la relation entre Gantier et Raouf, justement, parce qu'ils sont dans... Ils ont des
ils
idées...
Amis, en fait.
Ouais, c'est ça. Ils ont des idées qui se... Voilà, comme on pourrait débattre avec des amis, quoi, mais qui les rapprochent et qui les éloignent à la fois.
Oui, et puis ils jouent un jeu un peu aussi. Oui. Ils se cherchent, ils s'envoient des pics en permanence, et en même temps, c'est comme ça que se construit leur relation.
Parce qu'en fait... tous les domaines, même les domaines amoureux, au final.
Oui, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, c'est plutôt des rivaux, en fait. Enfin, ils ne sont pas vraiment amis. Ils se retrouvent ensemble parce que le père de Raouf lui demande de faire je ne vais pas spoiler le livre, mais lui demande à Gantier d'emmener son fils en Europe. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi, en fait. On se rend compte au fur et à mesure du livre qu'en fait, il y a peut-être des raisons plus obscures que simplement découvrir le vieux continent. Mais je ne sais pas, je trouve que cette relation, elle est très, très intéressante. Et le fait qu'elle soit pas qu'il n'y ait pas trop de détails et qu'elle ne soit pas trop creusée non plus, fait qu'on s'imagine pas mal de choses. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi.
Mais on voit quand même qu'à la fin du livre, notamment, qu'il y a de la tendresse entre les deux et beaucoup d'empathie.
C'est à la fin qu'on le voit.
Ouais, c'est quand même... moi, je trouve que c'est une très belle relation dans ce livre.
Et là, la relation se construit aussi parce qu'ils sont... Il se trouve une sorte d'égalité, je pense, l'un l'autre, dans l'intelligence qu'ils ont et une certaine culture commune, un amour des livres, un amour du bon mot, de la construction littéraire, etc., qui font qu'ils arrivent à se répondre, qu'ils arrivent à avoir des joutes verbales, des dialogues, etc. Et il y a quand même à nouveau un système un peu d'élite et de référence commune, parce que Raouf, il va citer, je ne sais plus quel auteur qu'il
Apollinaire
connaît par cœur.
Qui ? Pas Apollinaire, non, il cite quelque chose.
Peut-être Apollinaire, mais en tout cas, ou Shakespeare à un moment, je ne sais plus. En tout cas, il s'est cité des auteurs, des grands classiques par cœur, et il montre aux Américains, il montre aux Français qu'il a les codes de l'Occident, etc. Et c'est à ce titre qu'il est un peu inclus dans leur petite troupe et leur petit groupe.
Mais d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai trouvé... pour moi, c'est le reflet complet du livre. C'est le contraste entre un ancien monde qui est traditionnel, donc ce que symbolise en fait la ville où on se trouve, avec ces colons et ces Américains qui arrivent avec leurs idées entre guillemets progressistes, mais qui ont aussi eux leurs traditions et qui les cultivent aussi. Et j'ai l'impression que ce soit la ville entière ou chaque personnage a cette espèce d'ambivalence de je suis moderne à l'image de Raouf et je veux la révolution. Il s'intéresse vachement à, comme on est dans les années 20, on parle beaucoup de communisme. Il rencontre un Indochinois. Et en même temps, il est très attaché à ses traditions, à sa ville, et jusqu'à abandonner ses idées révolutionnaires, en fait, parce qu'il est habitué à ce confort-là, comme tu le disais. Et je trouve que tout le livre tourne autour de ça. Je finis juste sur ça. Je pense que, pour moi, les années... J'ai beaucoup aimé aussi le livre, parce que je ne connaissais pas du tout les années 1920. On connaît surtout le côté américain avec Gatsby le Magnifique, etc. Mais l'aspect... moi, je n'ai pas lu beaucoup de livres sur ces années-là de la colonisation. Et je ne sais pas, j'ai appris beaucoup de choses parce que il y a beaucoup de faits historiques, donc on apprend énormément de choses. Et en même temps, on arrive à comprendre cette époque où il y a de l'ancien et du nouveau. Et je trouvais que ça, c'était vraiment très, très bien amené.
Et on est aussi à une époque, c'est là aussi où je te rejoins totalement, c'est une époque passionnante pour nous parler de ce pays-là, même sans le nommer, parce qu'on est à une époque où l'indépendantisme, ou l'indépendance du pays est encore assez loin. Ça va être 56 pour la Tunisie, 62 pour l'Algérie, donc on est, dans les années 20, on est encore loin. On voit les germes, on voit les premières idées, mais c'est encore un idéal très lointain. Et c'est vrai que c'est une époque donc, dont on parle peu, puisqu'il n'y a pas eu de faits vraiment marquants dans ces années-là, mais ça nous montre justement une société qui vit ce protectorat comme une chose établie et contre laquelle il est dur d'imaginer même de se révolter.
À l'image du Mektoub, ils disent tout le temps Mektoub, comme si
c'est le destin, c'est comme ça en fait. Et du coup, c'est assez passionnant. Et il y a un autre truc pour rejoindre aussi cette question-là. Moi, une autre idée brillante que je trouve du livre à un moment, c'est de nous faire... Donc, c'est pas un spoil de le dire, il y a un passage en Europe, puisqu'il voyage, et notamment un passage en Allemagne. Et je trouve de l'Allemagne de l'après-guerre, donc dévastée, anéantie, et avec le rapport de force de la France qui veut se venger de l'Allemagne en l'acculant à la misère.
En l'occupant même.
En la poussant à rembourser des dettes impossibles à rembourser. Et il y a des parallèles justement menés par Raouf qui dit « Ah mais c'est comme vous vous occupez aussi des Européens, vous colonisez aussi. » Et c'est, je trouve hyper intéressant de dresser ce genre de parallèles, de montrer aussi une période assez troublée et où les politiques internationales, notamment de la France, sont passionnantes et aussi engendrent tous les problèmes que l'on connaît par la suite, nous qui savons quelle sera la suite de l'histoire pour chacun de ces pays.
Et c'est ça qui est brillant, je trouve, d'arriver à planter une histoire fictive dans une ville complètement fictive. Comme tu le dis, on imagine que c'est la Tunisie, ça pourrait aussi être l'Algérie, mais dans une ville fictive, pourtant on s'y croirait, c'est tellement bien décrit, on croirait que la ville a existé. Et de ci, de là, il met des moments historiques. Par exemple, le procès de Fatih Arbuckle, qui est vraiment quelque chose qui a existé et après qui a mené sur des règles. Parce que du coup...
Tu peux peut-être du coup expliquer un peu plus ce que c'est le procès de Fatih Arbuckle.
Oui, donc alors ça, c'est au début du livre. Mais donc, les Américains arrivent à Nabès pour tourner un film dans le désert. Et ils amènent... Avec eux, leur pratique américaine de l'époque, donc une Amérique qui est marquée par le puritanisme de manière très prononcée, parce que je crois que c'est au moment de la, je ne suis pas sûre au niveau des dates, mais de la prohibition. Oui. Il me semble que c'est durant cette période, mais qui est en même temps très, très, très décadent, très désinhibé. Et donc, on voit les personnages, donc les Américains, discuter entre eux et faire référence à une affaire qui a existé pour le coup, puisque après, par curiosité, j'ai été regardée et ça a vraiment existé, d'un acteur qui a été accusé, donc qui faisait des fêtes. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu Gatsby, mais voilà, des fêtes avec énormément d'alcool qui durent des week-ends, enfin des journées entières, avec énormément de sexe. Et donc, un acteur qui a été accusé d'avoir violé une jeune actrice, donc il y a eu un procès qui a fait grand bruit aux États-Unis.
Qui en est morte.
Ah oui, pardon, oui.
Violée et tuée.
Enfin, on ne sait pas si elle a été violée, en fait.
Non. Elle est morte.
Elle a été à l'hôpital et elle avait des douleurs au ventre. Elle avait plusieurs maladies sexuellement transmissibles et elle est décédée. Et en fin de compte, ce procès a fait beaucoup de bruit dans les années 20 et a amené ensuite, c'est ce que j'ai vu après, à l'établissement de certaines règles de bienséance dans le cinéma américain. Et j'ai trouvé que de parler de ces choses vraiment très concrètes-là, ces faits historiques nous fait vraiment... Enfin, on a l'impression de lire un roman historique, un peu.
Mais je trouve que ça aussi, ça fait partie des histoires qui ne sont pas finies, en fait, parce qu'on en parle plein de fois dans le livre, et puis, en fait, je me suis dit, mais quel est le rapport avec l'histoire qu'on est en train de lire? Et même si, en fait, ça permet vraiment de comprendre un peu aussi, encore une fois, la contradiction de chaque personnage. Mais c'est vrai que je me suis posé la question de... Pourquoi on raconte ça à ce moment-là?
C'est vrai qu'en plus, parfois, dans la façon dont c'est écrit, on a vraiment l'impression qu'il va y avoir une conséquence narrative majeure sur les personnages. Et parfois, finalement, soit il y en a une, mais elle est petite, soit même ça disparaît, comme tu le dis, dans les histoires. J'ai pas trouvé ça gênant, mais je comprends qu'il peut y avoir un peu une frustration de certaines intrigues. En plus, il y en a beaucoup, donc on peut se dire pourquoi celle-là ne va pas au bout. Surtout, celle-là est en effet particulièrement intéressante. On a envie de savoir ce qui arrive à cette troupe. Est-ce qu'ils arrivent à faire leur second film, par exemple, ce genre de choses. Mais c'est clairement pas le cœur de son livre. Et c'est pas vers ça qu'il va. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, moi, vraiment très fort, comme tu le dis, Charlotte, il y a tout ça. Et en même temps, je trouve ça très fluide dans l'intégration vis-à-vis des autres récits, parce que j'ai lu beaucoup de livres qui, dans des périodes précises, qui essayent de montrer, de se raccrocher à des détails réels, qui essayent de nous faire apprendre des choses, etc. Et c'est souvent fait aux chausse-pieds, avec des morceaux, tout d'un coup, t'as un pavé, t'as l'impression de lire Wikipédia, et puis ça repasse sur l'intrigue, mais tu te dis, bon... Vraiment, l'auteur a voulu nous expliquer les choses. Là, je trouve que c'est très fluide parce que ça passe toujours par les dialogues des personnages qui sont assez naturels, qui sont extrêmement bien écrit. Je pense qu'on reviendra sur les personnages. Et du coup, tout ça passe naturellement dans la lecture et c'est à la fois intéressant, mais prenant dans le rythme du récit.
Et je pense que c'est pour ça, toi, Victoria, que tu as l'impression qu'on ne va pas au bout, parce qu'en fait, quand tu discutes avec... Quand tu es dans une conversation avec des gens, finalement, tu ne vas pas planter le décor de la discussion si tout le monde sait de quoi on parle. C'est comme si on arrivait, on les regarde au café en train de discuter, et eux, ils n'ont pas besoin de rappeler tout le contexte ou de dire quelles seront les conséquences après, parce qu'en fait, c'est de la discussion, et je pense que c'est... Moi, c'est ça qui m'a fait vraiment aimer le livre, parce qu'il est... On a l'impression d'être avec eux, je le trouve vivant, quoi. Mais non, c'était un très bon
Mais c'est lecture. Vrai qu'en fait, on dirait vraiment qu'on a capturé un moment de vie voilà, sur une certaine période, et puis voilà, et c'est tout.
Oui.
Oui.
Mais moi, alors, du coup, pour répondre à... Parce que du coup, j'ai réfléchi aussi, mais en fait, moi, j'ai bien aimé le livre, mais il y a des choses qui m'ont vraiment... où je me suis dit, bon, en fait, je l'aime pas, je le relirai pas, quoi.
Et tu as, tout à l'heure, tu as évoqué le personnage de Rania. Est-ce que tu veux peut-être parler un peu justement de la place des personnages féminins dans ce livre? Parce que moi, je trouve qu'ils sont... Là aussi, c'est un livre assez riche et qui arrive à dire beaucoup de choses de la place de la femme, à la fois dans les sociétés musulmanes, mais aussi dans les sociétés occidentales, dans une période, les années 20, où évidemment le sort des femmes était tout sauf enviable. Et je trouve qu'il arrive à faire exister, et là aussi c'est assez rare pour le souligner, plusieurs personnages de femmes en elles-mêmes qui n'existent pas que pour les hommes, même si elles sont souvent quand même liées à des intrigues sentimentales. Mais je trouve très réussi la façon dont il caractérise des personnages assez complexes et peu caricaturaux.
C'est clair.
Mais du coup, en fait, je trouve que déjà... Pour revenir sur cette contradiction, dans toutes les relations qui sont décrites, et peut-être pas toutes, mais la grande majorité, quand je dis peut-être pas toutes, je pense à la relation entre Rania et son père, qui est pas conflictuelle, en fait. Mais dans toutes les relations, sinon, que ce soit Raouf, Catherine, que ce soit Gantier, Raouf... Gabriel Gantier. Et en fait, il y a toujours, c'est très compliqué. En fait, c'est une description des relations. En fait, t'as pas envie de les vivre ces relations parce qu'elles sont, en fait, je les trouve hyper dures dans la description. C'est conflictuel. Et moi, c'est quelque chose où justement, je trouvais que c'était un peu trop peut-être dans ça. Et pour parler des personnages féminins, c'est effectivement trois personnes complètement différentes entre Rania, qui est indépendante, qui semble fière d'elle, qui a eu beaucoup de liberté avec son père, notamment pour lire, se cultiver énormément, qui a eu un mariage heureux, et qui en fait dans chaque au départ on la voit et puis ensuite dans chacune des quand on la revoit à chaque fois tout le long du film, on a l'impression que sa recherche c'est beaucoup l'amour en fait. Il y a Gabrielle qui est indépendante, qui est
moderne
et qui est française du coup,
journaliste française.
Ouais. Mais pareil, elle est aussi, on la voit énormément dans les rapports de relations avec les hommes aussi.
Elle est très désirée, mais elle, pendant une grande partie du film, t'as l'impression qu'elle rejette ce désir des hommes. Il y a même jusqu'à un doute un moment sur sa sexualité à plusieurs reprises. À la fin, il y a quand même une sorte de rapprochement entre les personnages. Mais je suis d'accord avec vas-y.
Non, mais du coup, t'as ce pouvoir séducteur, quand même. Enfin, je veux dire, le regard qu'on a d'elle, c'est une séductrice, un peu. Notamment dans la relation avec Gantier. On a l'impression que...
Et de tous les autres hommes, même quand elle va dans des bals, etc., les femmes sont jalouses d'elle parce qu'elle incarne une sorte de liberté qui semble, en effet, attirer beaucoup les hommes.
Oui, après, moi, je trouve que... C'est pour nouer l'histoire aussi, qui a ces histoires sentimentales. Moi, ça m'a pas gênée dans le sens les femmes n'existent qu'au travers de ça, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'elles étaient au contraire très développées. Les personnages féminins sont très développés. On les voit même faire des choses seules. Quand elles vont toutes les trois au marché, elles ont quand même leurs propres intrigues. Et notamment, le personnage de Gabrielle est intéressant parce qu'elle a quand même un rapport de domination avec les hommes, notamment parce qu'elle les séduit. Ce chapitre, on va pas tout raconter, mais quand Gantier est chez elle, lui, il pense dire je rentre chez toi, et il pense dominer, entre guillemets, la situation. Et en fait, il se retrouve complètement désemparé face à cette femme qui est complètement libérée. Et pour laquelle il ne sait pas du tout quoi faire.
Il n'est pas à la hauteur du tout.
Voilà. Oui. Et moi, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que c'est pas l'aspect sentimental là qui est développé. Pour moi, c'est plus la libération de la femme qui est vraiment à ses tout débuts. Et j'ai trouvé que c'était la libération de la femme, mais de trois femmes avec leur culture différente. Parce que l'américaine Catherine, c'est aussi, elle est aussi dans cette mouvance-là d'être libérée. Enfin, on est beaucoup dans sa tête.
Mais elle ne le vit pas très bien.
Elle ne le vit pas bien, en fait.
Moi, j'ai l'impression que Catherine, et je reviendrai sur le passage avec Gabrielle juste après, mais j'ai l'impression que Catherine, elle est... en fait, sa façon d'être libérée, c'est à travers, en fait, changer d'homme pour trouver une libération. Parce qu'en fait, tu as l'impression qu'elle est jamais seule, en fait. Elle n'est jamais seule.
Mais parce que je pense que c'est aussi, malheureusement, le destin des femmes à cette époque-là, en fait. Non, surtout une actrice qui veut être connue, son moyen de tourner dans un film, en fait, c'est de coucher avec le producteur allemand.
Elle était d'abord avec le réalisateur, en couple, et puis qui fait plus des blockbusters. Et comme elle est attirée par le cinéma allemand quand elle est en Allemagne, elle couche avec le réalisateur de génie.
Je pense que c'était comme ça que les femmes...
Jusque très récemment.
Oui.
Et finalement, en fait, sa relation avec Raouf, elle est... c'est celle qui serait la plus saine, en fait, parce qu'elle n'est pas... elle cherche pas à avoir une plus-value dans cette relation, en tout cas.
Mais elle veut l'emprisonner.
Oui, donc au final, même dans cette relation où elle pourrait être la plus libérée, elle l'est pas forcément, parce qu'en fait, elle est prisonnière des
sa jalousie. Et de sa jalousie aussi, parce qu'une autre femme surgit, et là, son monde s'écroule, elle est complètement hantée par cette jalousie, alors qu'au final, nous, lecteurs, on le sait, il ne s'est rien passé avec cette femme, mais elle se fait des films monstres.
C'est encore hyper intéressant, cette jalousie, parce que ça renverse totalement le rapport, puisque on part d'une actrice américaine connue mondialement, ou en tout cas... une star américaine qui débarque dans un pays arabe et qui séduit le jeune arabe pas connu, etc.
À peine bachelier.
Et donc lui, il peut se dire quelle chance j'ai, mais c'est clairement lui le dominé de cette relation. Et la jalousie retourne tout, puisque c'est elle qui va finir par être désespérée d'amour pour ce garçon.
Et... par ailleurs, juste sur... enfin, là, je pense qu'on aura peut-être un peu spoilé le livre, je sais pas, mais parce que pour moi, j'ai vraiment mis du temps à comprendre qu'il s'était passé quelque chose entre eux, parce que le livre ne le dit pas.
Il fait un twist sur ça.
Oui, voilà.
Ouais, non, on le sait pas. Oui, oui.
On a spoilé.
mais même, tu vois, alors moi, deux scènes, justement, la scène où on comprend qu'il se passe quelque chose entre eux et la scène avec Gantier et Gabrielle. Moi, j'ai trouvé que c'était deux scènes, mais en fait, je les ai pas du tout aimées. Je trouvais que le regard que Gantier pouvait porter dans ces scènes, pour moi, ça rendait le moment, cette colère qu'il a en lui, etc. Bon, elle était très bien donnée dans le livre. Bref, je me suis perdue dans ce que j'ai raconté.
T'as pas aimé cette scène?
Non, en fait, je vais reparler que de la scène Gantier-Gabriel.
Ça marche. Vas-y.
Du coup, la scène Gantier-Gabriel dont tu parlais tout à l'heure, Charlotte, je ne l'ai pas du tout bien vécue. Je l'ai passée très vite dans les passages parce que je trouvais que c'était hyper violent. Et encore une fois, on est dans la tête du mec, en fait. On n'est pas dans la tête de la fille. Tu vois, on aurait pu avoir ce côté Gabrielle, qu'est-ce qu'elle pense quand elle est dans sa salle de bain, quand elle sait qu'il y a un mec qui lui tourne autour depuis des...
Moi, ce que j'aime bien, c'est être à la place de l'homme qui s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Je ne comprends pas. » Lui qui pensait... je trouve que c'est limite plus intéressant d'être dans l'esprit de l'homme à ce moment-là, parce que lui qui pense s'inviter chez elle et passer la nuit avec elle... se retrouve complètement démuni et perdu.
Moi, je pense que j'aurais préféré être dans la tête de Gabrielle à ce moment-là. Mais en tout cas, je sais que je pourrais pas trop expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment pas du tout aimé ce passage. Et si je peux finir, par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense qu'en fait, au final, en y réfléchissant, en parlant, le personnage que j'ai le plus apprécié, le personnage féminin que j'ai trouvé le plus pur et le plus... celle qui revendique le plus la liberté, c'était justement cette jeune femme qu'il rencontre sur le bateau en venant...
Mathilda,
j'avais plus son nom.
Exactement, je voulais en parler aussi.
Autrichienne. Je trouve que c'était vraiment... c'est elle, le personnage fort féminin du livre, je trouve. Même si on la voit que brièvement.
J'ai bien aimé ce personnage aussi. Moi, c'est vrai que... En fait, il n'y a pas trois femmes, il y a quatre femmes, parce qu'il y a cette Autrichienne, et qui d'ailleurs est aussi issue de la bourgeoisie, du coup, autrichienne, et qui est juive. Et donc... Il y a quand même des passages où, en fait, quand toi, tu sais, voilà, quand tu sais ce qui se passe après dans l'histoire, on se prend un peu de tendresse pour cette jeune femme, quoi.
Et puis, en plus, elle fait partie du livre. Elle fait partie complètement du livre parce que, à la fin, avec cette jalousie, justement, de Catherine, on en entend parler tout le temps, en fait.
Oui.
Elle est là sans être là. C'est ça. Et puis, avec ce doute de est-ce qu'on va la revoir ou pas, on ne saura pas si on la revoit ou pas.
Et surtout, toutes ces femmes. Et on va rejoindre peut-être l'un des bémols, ou le bémol que j'ai sur le livre. Puis après, on va conclure parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Mais toutes ces femmes, et ça, c'est positif, sont très intelligentes dans leur façon de penser, de parler, etc. Mais comme tous les personnages importants du livre, ils sont tous très intelligents, ils parlent tous très bien, ils ont tous les bonnes références. Alors, du coup, ça fait un livre extrêmement plaisant à lire parce que même dans les dialogues, il y a des bons mots, ils rebondissent les uns sur les autres et je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où tu prends vraiment un plaisir presque jouissif à les écouter parler comme on entendrait une bonne pièce où il y a quelque chose dans le dialogue et dans la façon dont il le retranscrit avec sa plume de très beau. Et en même temps, je trouve que ça fait qu'on a un livre qui s'intéresse quand même quasiment exclusivement à cette élite-là, oui. Et qu'on entend peu les autres. On entend peu les vrais dominés, qui le sont totalement. Et du coup, c'est en effet pas son propos, c'est pas ce sur quoi porte le livre, mais il y a une petite tendance au livre un peu bourgeois de mondanité, où c'est on s'intéresse aux relations entre les puissants et les sachants, même s'il y a tous les trucs de domination dont on a parlé entre ces personnalités-là, mais c'est quand même entre eux que ça se passe. Il y a peut-être l'histoire du marchand qui se fait avoir, parce qu'il y a plein de petites sous-intrigues, oui, qui est un peu différente.
Et lui aussi, c'est un peu un bourgeois.
Et lui aussi, c'est un bourgeois, un peu raté.
Mais il y a d'autres scènes où on voit, par exemple, il y a une scène où on est dans une fête et on découvre qu'il y a des bouteilles de vin qui ont disparu.
Oui, moi, c'est ça, je pense.
Et là, on dit, c'est impossible que ce soit en français, en fait. Donc, on va accuser n'importe qui, sauf un Français.
N'importe quel
arabe. Et là, on voit vraiment la domination.
Mais on voit pas les personnages.
Oui.
C'est dans le fond. Et ça apparaît peut-être de manière assez forte à la fin du livre, dans une dernière éruption qui présage beaucoup de choses. Mais ce sont jamais les personnages que l'on suit.
Oui, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous. C'est survolé, en fait, ces personnages qui sont... Au final, ils sont dominés. Même dans le livre, dans l'histoire, ce sont des personnes dominées. On a l'histoire de Tess, qui est la servante de Catherine, qui est une femme noire. On sent qu'il y a une histoire avec elle, puisqu'à la fin, elle a on pense qu'elle a un début d'histoire avec quelqu'un, mais elle a aussi une histoire un peu sombre, et à un moment donné, elle est absente, on ne sait pas pourquoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas développé. Ces personnes-là sont vraiment... apparaissent peu dans le livre, quoi. Pas assez, en tout cas. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai lu un article sur les prépondérants juste avant, en préparant, et l'article disait on attend le livre, après les prépondérants, on attend les dominés, pour qu'on puisse aller creuser l'histoire, en fait, de ces personnes dominées et de leur vision à elles de cette période-là.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne sais pas s'il en serait capable. Est-ce qu'il a une plume, je pense, très, très bourgeoise, justement, à voir.
Moi, je connais pas du tout l'auteur.
Moi non plus, hein, c'est le seul livre. Je me trompe peut-être que c'était juste sur ce livre-là, à voir.
On pourrait en parler pendant très longtemps, je pense.
Oui, mais on va quand même s'arrêter, sauf si vous avez... Non, pas de regrets. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous conseillez ce livre?
Oui, bien sûr.
Victoria, oui, et moi aussi. Et je vais vous lire un extrait pour vous donner une idée justement de cette prose dont on parlait.
C'est vrai que c'est très très bien écrit.
Si Ahmed avait continué à parler aux colons pendant qu'ils s'avançaient dans la grande allée du contrôle civil. La jeunesse d'aujourd'hui lui faisait peur. Le mépris des anciens, l'ivresse du savoir, l'athéisme. Gantier pourrait-il là-bas rappeler à son fils de faire ses prières et que le salut soit sur Gantier. Un Siamed anxieux, paternel et pieux qui serrait le bras de Gantier. On en aurait oublié sa réputation de machiavélisme et d'ami des alcools forts. Gantier se demanda soudain si Raouf était vraiment d'accord pour partir. Il se rendait compte qu'en quelques minutes, il s'était mis à tenir à cet arrangement. Gabrielle aimait bien Raouf, elle adorait lui donner des conseils. Gantier se voyait déjà à Paris avec le jeune homme, en guise de chandelier. Un beau trio, il fallait s'en assurer, d'autant que ce Raouf était une vraie tête de mule. Au moment où Gantier le saluait, Siamed avait fini par avouer que son fils hésitait encore un peu. Il voulait aussi aller en Turquie. « C'est ce qui m'inquiète le plus, vous comprenez, cher vieil ami. Le mauvais exemple est si proche. Ces gens là-bas, ces officiers turcs, c'est notre ancienne famille. Aujourd'hui, ils déchaînent les passions, et les passions sont des filles de la mort. Vous savez ce qu'on a trouvé dans le bureau d'un de mes secrétaires ? Non, pas le manifeste communiste, et je fais confiance à la France pour s'occuper du communisme. Non, ce qu'on a trouvé, ce sont les discours d'Atatürk, traduits en arabe. Ils sont tous à l'affût des nouvelles de Turquie. Il y a une photo qui circule en ce moment, l'entrée d'un village en Anatolie, un barrage militaire. Quand les paysans arrivent, ils doivent échanger leur turban de croyant contre une casquette à l'occidentale, et en même temps, on leur montre ce qu'on a construit sur le bas-côté, une potence. Vous voudriez qu'on fasse ça ici, avec une réforme agraire ? Gantier avait ri, et décidé de n'avoir au plus vite avec Raouf une de ces discussions où chacun essayait de paralyser l'autre, et qui les menait jusqu'à tard dans la nuit. Il avait déjà en tête les mots qu'il allait lui lancer. Vous n'avez pas envie d'aller voir comment on fabrique ce qui vous domine ? Et on enchaîne avec la deuxième critique du podcast, c'est la BD « Le serpent et la lance » que Charlotte va nous présenter.
Merci Mehdi. Alors la bande dessinée s'intitule « Le serpent et la lance » de Hub. Je ne sais pas si on dit Hub ou Hub.
Je dirais Hub, mais parce qu'il est français.
Moi, je pense qu'il fait un peu genre, donc il s'appelle Hub.
Donc, Hub.
On aspire le H. C'est l'acte 1, Ombre Montagne. Il est sorti en 2021. Donc, cette bande dessinée est un thriller enquête dans le monde aztèque autour du 15e siècle. Au sein de la cité lacustre Tenochtitlan, capitale du monde unique, une enquête est lancée afin de résoudre le mystère derrière la découverte de momies de jeunes adolescentes recroquevillées sur elles-mêmes. Les autorités décident de dissimuler ces découvertes d'une manière plus que macabre. Je ne vous en dis pas plus, il faudra lire la BD. L'enquête est confiée à une sorte d'officier de justice cruel et brutal, mais en parallèle, le prêtre Kozatl sollicite son vieil ami d'enfance pour trouver des réponses à ces mystérieuses découvertes et disparitions de jeunes filles. Donc dans cette bande dessinée, on est plongé dans un univers qui est peu commun, où la prononciation des mots aztèques nous fait apprécier de n'avoir qu'à lire la BD et ne pas à la compter. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée sont vraiment les dessins et les grandes planches qui sont très très bien réalisées, très belles. On est sur un acte 1 qui fait un peu moins de 200 pages. Moi, mon opinion, hein, je le dis tout de suite, mais
vas-y.
C'est que je trouve que c'est une très bonne entrée en matière d'une histoire très réussie pour un premier tome. Il pose beaucoup de questions, peut-être même un peu trop, parce qu'il y a de certains moments à la lecture de la BD, on est un peu perdu dans ce qu'on voit, je trouve. Et il incite vraiment à lire le tome 2 pour qu'on comprenne un peu mieux les différentes intrigues qui sont lancées dans ce premier tome.
Le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, je crois, parce qu'il me semble que c'est en 5 volumes, cette histoire.
Mais je crois que le 4 et le 5 ne sont pas encore parus.
C'est ça.
Ouais.
Et Victoria, toi, est-ce que ça t'a plu ?
Alors moi, j'aime pas trop les BD.
De manière générale.
De manière générale, c'est pas, en tout cas, c'est pas
ce vers quoi tu vas.
Voilà, c'est pas ce vers quoi je me tourne. Et mais bon, c'est aussi une des. Enfin, moi, j'aimerais bien en lire plus, enfin, en lire tout court. En réalité, comme tu l'as dit, Charlotte, c'était vraiment une belle entrée en matière. Moi, je me suis dit au milieu du truc, je me suis dit bon, je lirai pas le 2. Et puis à la fin, je me suis dit, bon, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc, peut-être que je lirai la suite.
J'ai eu un peu la même impression. C'est marrant.
Mais sinon, oui, c'est une bonne BD. J'ai pas tout compris. Parce que...
Moi, j'ai quasiment rien compris.
L'intrigue, j'ai compris l'intrigue, mais le fait qu'il y ait énormément de mots différents, c'est assez, du coup, je trouve compliqué de rentrer vraiment dans l'histoire. Et c'est aussi, c'est assez macabre, moi j'ai trouvé, donc
oui,
ça a heurté mon petit cœur.
Oui, bah, sur la difficulté, il y a aussi beaucoup de personnages qui sont introduits et avec des jeux temporels, parce que ça, je pense oui. que ça va être comme ça sur tous les tomes, mais on a des sortes de flashbacks, ou en tout cas une construction en plusieurs temps, où on voit les personnages adultes et les personnages jeunes quand ils se rencontrent, etc. Et donc on comprend a posteriori qui est qui, par rapport à qui. Donc au début, on voit plein de présentations de personnages sans qu'on sache pourquoi et qui est qui, et on finit par relier tous les points de manière assez fluide. Et en effet, c'est assez gore. Ce qui m'a fait peur, moi, au début, c'est l'utilisation justement de ce monde aztèque. L'auteur est connu avant pour une saga qu'il avait fait sur le Japon. Et là, il passe sur les Aztèques et j'avais un peu peur de l'effet carte postale. Je prends une civilisation et je l'utilise pour
raconter mon histoire.
Pour raconter mon histoire, ce qui est un peu le cas, je trouve. Et surtout, le début où ça commence par un sacrifice humain, où il prend le cœur, je me suis dit, oh là là, ça y est, on part sur vraiment les clichés de tout ce qu'on peut imaginer de base sur les Aztèques. On dit Aztèques, on pense sacrifice humain et dieu exotique avec des plumes et des noms étranges. Et en effet, il va un peu là-dessus. Oui. Le côté un peu superficiel, je trouve quand même qu'il réussit à donner un peu de profondeur à l'utilisation du monde aztèque, notamment parce qu'il utilise, bon, c'est une ficelle un peu facile, mais qui marche bien, beaucoup de mots aztèques dans les bulles, avec des petits astérix pour nous expliquer à chaque fois ce que c'est. Donc là aussi, on nous apprend des choses de manière un peu plus forcée, je trouve. Donc, il va y avoir celui qui est champion du sport des Aztèques. Et donc, on va voir la petite astérix pour nous dire les Aztèques jouaient à tel sport, etc. Donc, on nous explique deux, trois trucs. Ça fait un peu penser aux mystérieuses cités d'or. mais il arrive quand même à créer une histoire autour de ça. L'autre bémol que j'ai, c'est que je trouve ça un peu dommage de... Mais c'est le cœur du projet. Mais d'avoir recours, encore une fois, à un thriller... sur des disparitions de jeunes filles, et on retrouve des cadavres et on enquête dessus. C'est quand même le canevas le plus attendu. Oui. Donc je comprends qu'à mon avis, ce qui s'est dit ou ce que l'éditeur s'est dit, c'est qu'une BD chez les Aztèques, c'est compliqué. Donc en faisant une histoire connue et familière pour rassurer les gens dans un milieu étrange, ça va créer un contraste intéressant. Du coup, ça nous refait faire une enquête policière, entre guillemets, avec les ressorts attendus de ce genre d'enquête. Ce qui fait que c'est pas si original que ça comme lecture.
Oui, je suis d'accord. Moi, alors, c'est vrai que dans la présentation, j'ai dit que j'avais aimé, mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment les images, parce que je trouve que c'est très, très bien dessiné. Il y a des changements qui sont faits entre des passages en noir et blanc. On voit juste le sang qui montre que c'est vraiment gore, et des passages très colorés avec des belles images de temples aztèques. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment c'est un peu poussif, quoi. Je trouve que effectivement cette intrigue des disparitions et toutes les momies, bon, d'accord, ok, il y a une enquête, et en plus de ça, on a l'impression que l'auteur de la BD veut vraiment nous donner tellement envie de lire le tome 2 qu'il en fait limite un peu trop. C'est que des fois, on va avoir juste une planche complètement improbable qui parle d'un sujet, enfin, qui parle de rien, en fait, puisque ça va juste être plusieurs onomatopées. À la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un passage assez étrange où il y a des gens qui volent des choses.
J'ai rien compris à la fin.
Ouais, franchement.
Je trouve que c'est un très mauvais cliffhanger, parce que voilà. Vu qu'on... Alors que justement, ça allait... Je trouve que c'était extrêmement facile de faire un bon cliffhanger sur ce type de récit. Un cadavre retrouvé à un endroit inattendu, une personnalité, un des personnages qu'on connaît qui fait quelque chose
de louche,
on s'attend pas, etc.
Oui.
Enfin, là, il montre une scène qui n'a rien à voir, de gens qu'on connaît pas.
Voilà.
Et on a l'impression qu'il y a une importance considérable à ce qu'ils font, sans qu'on ait les clés de savoir qu'est-ce qu'il y a d'important.
Exactement.
Ça donne absolument pas envie de...
Ouais, je trouve qu'à plusieurs reprises, il y a ces passages-là. Enfin, je sais bien qu'il ne faut pas tout dire au tome 1, mais bon, il y a limite trop d'intrigues qui sont plantées pour qu'on y croit vraiment. Enfin,
Et des, ouais. et des, très, des choses, des passages vraiment longs où, et qui reviennent. Oh, bah, ils ont retrouvé notre momie. Oh, bah, du coup, ils vont dézinguer tous les témoins. Et je trouve qu'il y a une, image qui est limite. Moi, je me suis dit... En fait, t'as une pièce qui est assez petite et puis il y a plein de momies de partout. Oui, et il y en a un, il a une momie dans les mains et c'est en mode, bah, il va la mettre où parce qu'il y a trop de momies. Et il y en a un qui dit, oh, heureusement qu'on les a toutes récupérées avant que ça se propage la rumeur de ces momies. Et je trouvais que cette scène, elle était limite drôle parce que...
C'est poussif, quoi. Ouais, c'est trop, quoi. Enfin, c'est un peu trop. Ouais. Je suis d'accord.
Et par contre, en effet, je trouve ça aussi très bien dessiné. Et notamment, je trouve que là où il est très fort, c'est dans les... Il fait certaines planches, il en fait assez fréquemment. D'ailleurs, bah déjà, le volume est un nombre de pages assez conséquent.
Oui.
Et c'est très riche. Généralement, plus il y a de pages, plus c'est dur pour les dessinateurs. Donc, on a souvent des décors un peu fades ou des gros plans. Là, non, au contraire, c'est souvent des grands plans. Ou alors, il y a beaucoup de personnages. Il y a parfois des énormes cases avec, par exemple, le marché aztèque ou des paysages qui fourmillent de détails, de combats, de batailles, etc. Et c'est extrêmement beau à voir. Donc, ça a dû demander un temps fou et sacré talent. Et sur ça, il est vraiment impressionnant, en effet, sur la composition de ses plans et de ses pages. Et c'est une des choses qui fait rester, en effet, sur le récit, c'est là, juste la beauté de... En plus d'un monde aztèque assez coloré, assez vivant, assez riche, il a l'intelligence de situer l'action avant les invasions occidentales. Donc, on est vraiment plongé dans cette société-là qu'on ne connaît pas en plus. Donc, il y a un côté un peu exotique, ce qui est recherché par le dessinateur. Et ça rend de très belles planches qui, en effet, sont assez impressionnantes.
Complètement.
Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Le Serpent et la Lance? Les femmes, assez peu présentes hein, dans ce livre. C'est un monde d'hommes. Elles sont par les momies.
Et puis la mamie qui parle pas et qui mange.
Ah oui, on peut dire.
Et la sœur d'un des personnages principaux qui fait la recherche. Mais bon,
oui.
On ne sait pas trop en quoi elle est liée à cette histoire. Oui. Et je pense que c'est sur ça qu'il joue pour qu'on ait la suite. Hein. Complètement.
Un truc intéressant, c'est la grand-mère qui parle avec des onomatopées. Alors, on a du mal à comprendre pourquoi certains personnages, tout d'un coup, parlent, et c'est pas des onomatopées, des dessins. Quand ils parlent, au lieu de voir un texte, une bulle avec les textes écrits, on voit une sorte de dessin qu'on peut imaginer être des dessins issus des fresques aztèques, en tout cas des figures aztèques. Et du coup, c'est assez intéressant, je trouve, parce que tu essaies de deviner ce qu'ils disent par rapport à ça, mais tu comprends pas pourquoi il y a que ce personnage qui parle comme ça. Des fois, tu en as un autre tout d'un coup qui fait ça, mais tu...
Ou c'est pour des insultes.
Pour des insultes, un peu comme dans les Astérix, mais...
Du coup, c'est un peu étrange. Tu sais pas s'ils pensent, tu sais pas s'ils parlent.
Bah, ils parlent parce qu'ils se répondent, mais... Mais tu sais, est-ce que c'est une autre langue? Mais bon, donc c'est pas clair. Et ça aurait pu être plus poussé, je pense. C'est un peu dommage aussi.
Et plus compréhensible parce que... Ou expliqué quelque part.
Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce tome 1, il existe uniquement pour nous faire lire le tome 2. Parce qu'on se dit, mais il y a trop de choses, trop de questions. Je me pose trop de questions à la fin de ce livre, donc je vais lire le tome 2. Mais du coup, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. C'est un peu dommage.
Et deux questions, est-ce que vous le recommandez et est-ce que vous allez lire ce fameux tome 2 ?
Victoria, vas-y.
Moi, je ne le recommanderais pas forcément, parce que je ne saurais pas à qui le recommander. Est-ce que je lirai le tome 2 ? Seul l'avenir le dira.
Là, tu reviendras dans le podcast nous faire part de ton choix. Charlotte ?
Eh bien, écoutez, j'ai fini cette BD hier, enfin même ce matin, pour être honnête. Donc, je n'ai même pas encore réfléchi si j'allais lire le tome 2. Mais après avoir eu cette discussion et cette réflexion, je ne pense pas parce que... Non, je pense que j'aurai d'autres bandes dessinées à lire qui m'intéresseront plus que celle-ci, même si les images sont très belles.
Et tu le recommandes pas ?
Je le recommande pas, non.
Moi non plus, je le recommanderais pas particulièrement, sauf peut-être pour une lecture un peu... si vous cherchez quelque chose d'assez simple mais beau, voilà, c'est une BD qui se prend pas la tête, qui est assez prenante, donc qui peut se lire dans cette recherche-là et qui est très belle.
Oui.
Et moi, je pense que je lirai le tome 2 parce que j'aime bien avoir des collections complètes dans mes bibliothèques et je n'ai pas à détester au point de ne pas lire la suite. Donc, je lirai sûrement.
On te l'offrira, Mehdi.
C'est gentil. C'est enregistré, hein, Charlotte.
Pas de problème.
Et est-ce que tu as un extrait à nous lire?
Oui. Alors, ça a été assez difficile parce que entre les mots aztèques que je n'ai pas envie de lire et toutes ces onomatopées et ces bulles dessin, mais j'ai trouvé un extrait à vous lire. Tlaloc, seigneur de la pluie, ô cyprès séculaire, sois l'éternel témoin de notre serment. Cosalt, ici devant toi, nous mêlons notre sang et nous nous jurons l'un et l'autre entraide et amitié jusqu'à la fin de notre éphémère passage dans ce monde. Que celui qui brise ce pacte secret soit maudit à jamais. À tout jamais. À tout jamais. Boum, boum. Et il a sorti le cœur qui bat. Voilà. Il faut avoir les images, hein, forcément. C'est pas très parlant.
Une voix
comme
de
ça.
Grand prêtre aztèque, quand même.
Ben non, c'est un enfant qui.
Ah,
fait...
c'est un enfant.
Ben oui. Donc, bon,
une voix d'enfant, très bien.
J'ai pas une voix d'enfant ?
Si, si, c'est parfait.
Ça passe.
Bien, merci Charlotte. Et on va passer à la dernière lecture du podcast. Et on va passer à L'Arbre-Monde de Richard Powers. Et c'est Victoria qui va le présenter.
Alors, donc, c'est une histoire qui se passe aux États-Unis. C'est l'histoire d'une amitié solide et grandissante entre plusieurs personnages. Carmen, franche au grand cœur. Bridget, volontaire et déterminée.
Non, non Victoria, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là qu'on lit. Tu as mis ton veto, Victoria. Tu non, ne peux c'est... pas revenir sur tes choix.
Tu sais que j'étais en train de me dire, mais elle n'a pas du tout compris le livre.
Mince, nous n'étions pas sur 4 filles et un jean.
Et non.
De Anne Brachares.
Et non, car tu as mis ton veto au dernier épisode, comme les auditeurs et auditrices ont tous écouté.
Oh mince. Oui, bon, du coup, j'ai vraiment préparé quelque chose sur L'Arbre-Monde.
C'est hyper drôle, mais tu sais que je ne m'y attendais pas du tout.
L'Arbre-Monde est un livre de Richard Powers, écrivain américain né dans l'Illinois le 18 juin 1957. Il devient auteur reconnu aux États-Unis dans les années 90. Il reçoit le prix Pulitzer pour son 12e roman, L'Arbre-Monde, en 2019. Et ce livre est également, s'est également vu décerner en France le Grand Prix de littérature américaine.
Oh,
rien que ça.
C'est pas rien.
Comment les arbres peuvent lier des individus entre eux? Et oh. Au-delà, comment ces personnes, si différentes soient-elles, peuvent s'unir et lutter pour la vie?
Wow.
C'est l'histoire de ce livre.
C'est vrai. Parce que c'est... je me demandais comment tu allais décrire cette histoire qui est quand même très compliquée à résumer. Et c'est exactement ça.
Waouh, tu nous impressionnes. Ah, c'est pas fini.
Ce livre nous raconte l'histoire plutôt torturée de 9 personnages. 9 personnages humains.
Oui.
Des personnages ordinaires que la vie n'a pas épargnés. On a Nicolas, je vais le dire à la française.
Ok.
Nicolas, Adam, Ray, Dorothy, Douglas, Niley, Patricia, Mimi. Patricia, je l'ai mis 2 fois, mais il n'y en a qu'une.
Il n'y en a qu'une.
Et Olivia. Et donc ce livre est l'histoire de leur rencontre. Nick rencontre Olivia et deviennent ensemble veilleurs et cheveux de lune. Mimi rencontre Dougie, surnom de Douglas, vous l'aurez compris. Et ensemble, ils entament des actions de lutte pour la préservation des forêts, à l'instar des 2 autres. Puis Adam, un érable qui recherche un sens aux choses, les rejoint. Des destins s'entremêlent tels des racines d'arbres, destinées. C'est d'ailleurs le nom du jeu mondialement connu développé par Niley, ce génie proche de la folie. Ray et Dorothy, moi ces deux-là, je n'ai pas compris leur relation tellement elle était compliquée. Et lui est un avocat qui se sensibilise de plus en plus à la cause des arbres. Et je n'ai toujours pas non plus compris comment ils allaient prendre part dans l'histoire de ce livre.
Pourquoi tu n'as pas compris, Victoria, comment ils allaient prendre part?
Patricia.
Je te reposerai la question.
Patricia, bon, pour moi, c'est l'une de mes préférées de cette histoire. Donc, c'est une femme qui tente de vivre une vie simple après les ravages que la société a pu avoir sur elle. Et qui est vite rattrapé par cette société, car le monde a besoin de ses lumières pour comprendre les interactions entre les arbres. Et du coup, pourquoi je n'ai pas tout compris encore ? Parce que je n'ai pas fini ce livre.
Bouh.
Voilà, alors...
Il y a une punition dans des mots et des là.
Mehdi, c'est à toi de la trouver.
Bah, l'humiliation du bout suffit normalement. C'est un bout public.
Il va durer 5 minutes.
J'aurais pu passer la nuit dernière à finir de lire ce livre. Mais déjà, je me suis endormie.
Donc, c'est bien.
Voilà, il faut les dormir. Limites de mon corps. Ensuite, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et que je trouve très bien écrit et que je ne voulais pas bâcler la fin. Troisième raison, à un moment donné dans le livre, il y a un choc et je n'avais pas envie de... j'avais envie de le lire de manière sereine et de ne pas continuer dans cette émotion de ce choc. Voilà.
Ah oui, donc il faut qu'on fasse attention alors du coup.
Niveau spoil,
oui,
on fait attention. Nous-mêmes, de manière générale, on fait attention à ce qu'on dit. Je pense qu'on peut se débrouiller avec ce livre.
Oui,
qui est, je ne sais pas si tu avais fini avec la présentation, Victoria.
Oui.
Oui.
Mais c'est moi qui devais introduire le débat.
Ah bah, je te rends la balle tout de suite. J'allais juste dire que pour en plus ajouter de l'eau à ton moulin, je comprends qu'on puisse ne pas lire ce livre d'une traite une nuit, parce que c'est quand même un livre particulièrement dense. On a dit la même chose pour les prépondérants. Je pense que c'est encore plus vrai pour celui-là, qui fait un peu exprès aussi, dès le début. Enfin, le début, vous alliez sûrement en parler, mais il y a plusieurs parties. Et la première partie, c'est juste une juxtaposition d'histoires de ces personnages dont tu as parlé, sans lien entre eux, pendant très longtemps. Donc, on lit une histoire, puis une autre, et on a presque l'impression de lire une suite de nouvelles sans...
Ils ont un lien, en fait. Dès le début du livre, ils ont un lien, ce sont les arbres.
Oui.
Que ce soit en accident...
Mais etc. pas narratif,
mais voilà, ils ne se connaissent pas. Mais par contre, c'est des... on se doute que ça va être des destins croisés. Mais...
Oui, ou pas, parce que je ne sais pas. Moi, vraiment, au début, j'ai commencé ce livre, j'ai lu le premier chapitre, donc on nous parle... En plus, ça dure assez longtemps, on nous parle de quelqu'un, ensuite de quelqu'un d'autre, puis de quelqu'un d'autre, puis de quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, je me disais, peut-être qu'en fait, c'est une sorte de nouvelle, de série de nouvelles, et on ne va plus entendre parler de certains des personnages, ou peut-être qu'il y aura des... Je me demandais vraiment où ils voulaient en venir, et en effet, ça se rejoint au fur et à mesure de ce gros livre, qui est un bon gros pavé, et qui est assez dense à suivre, pour suivre le destin de... ces multiples personnages.
Moi, j'avoue que j'avais vu que c'était en quatre parties et ça commençait par les racines.
D'accord.
Mais comme Mehdi, j'ai cru que au bout de peut-être la huitième personne, je me suis dit peut-être ça va jamais s'arrêter en fait. Ce sera que des personnages. Et je suis allée voir après et j'avais complètement oublié qu'il y avait des parties.
Parce que le livre est divisé en quatre parties qui sont faites de manière hyper intelligente.
Pardon. Moi, j'ai lu les deux premières.
Donc toi, t'as lu
Racine et le tronc.
Racine, tronc, et après il y a cime et graine.
Mais qui sont plus petites. Tronc, c'est le
graine, enfin,
racine
c'est l'épilogue.
Et tronc, les plus grandes.
Ouais.
Et alors, petit détail.
Oui, vas-y, j'arrête.
Mehdi, dans toute sa splendeur, l'a lu en anglais, bien sûr. Nous ne l'avons lu qu'en français.
Ouais.
Pauvre petite invitée du podcast.
Mais on parlera du coup peut-être du style du livre, et je dirais ce que je pense du style in English. Le titre anglais est The Overstory, donc qui est un titre, un petit jeu de mots. Sur...
Qu'est-ce que ça veut dire pour les francophones?
Et ça ne veut, à mon avis, pas dire grand-chose, mais The Understory, c'est le sous-bois, qui est beaucoup mentionné dans le livre. Le sous-bois, c'est là où toute la vie se crée dans les forêts un peu laissées à leur propre vie, ce qui n'existe pas dans les forêts manipulées par l'homme. On reviendra sur tous ces thèmes. Donc le Overstory, c'est l'histoire qui les réunit tous, qui nous réunit tous les personnages, les arbres, etc. etc. Et c'est en même temps un jeu de mots sur The Understory. Et donc, Victoria, est-ce que ça t'a plu ce que tu as lu?
Oui, mais je l'ai déjà dit, Mehdi.
Je sais, mais je voulais te relancer sur ton appréciation du livre. Alors, on peut demander à Charlotte si tu veux.
Mais en tant que...
Non.
Vas-y, Charlotte.
Non, vas-y.
Non, mais j'allais dire que dans ma vie, l'environnement a une part importante.
Mm-hmm.
Donc, j'ai beaucoup apprécié J'ai vraiment apprécié de lire ce livre. Justement aussi par rapport à mes engagements personnels pour l'environnement. Et voilà.
Et Charlotte ?
Oui, j'ai aussi beaucoup aimé ce livre. Effectivement, j'ai trouvé quand même la lecture parfois même difficile. Vraiment, il y a des passages qui sont très... abstrait. Enfin, je sais pas si on peut dire abstrait, mais c'est très onirique, très. Enfin, c'est poétique les mots qui sont employés. Donc, ça peut faire des fois que l'histoire est un peu difficile à suivre. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce livre. C'est un livre moi que je souhaitais lire, donc j'étais assez contente de tomber dessus.
Et toi, Mehdi ?
Plutôt oui. Je suis impressionné déjà par le livre, par le, la complexité du projet et ce qu'il arrive à en faire. Et avec ce fil rouge d'essayer de nous faire regarder les arbres d'une autre façon. Et ce qui m'a étonné en lisant le livre, c'est que certes, on apprend beaucoup sur les arbres, sur la composition des arbres, sur tous les arbres différents qui existent, sur certains arbres miraculeux et dont je ne soupçonnais même pas l'existence, mais aussi sur les arbres les plus communs qui recèlent toute une myriade de trésors et de choses qu'on ne connaît pas, sur la capacité des arbres à être intelligents, à nouer des liens, à avoir des volontés, entre guillemets. Hein, tout ça, c'est des concepts qu'on commence un peu à connaître. Il y a eu un livre, je crois, en France, qui a eu un succès fou et dont j'ai oublié le titre, mais un peu, mais plus là vraiment documentaire.
La vie secrète des arbres.
Et sur ce sujet-là.
Je crois que ça a inspiré l'auteur en fait.
Ah d'accord.
Oui, oui.
Ah,
bon, bah. Enfin, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il
donc
me semble que j'ai vu ça.
Ça ressemble un peu au livre qui est dans le livre, parce qu'on a, l'un des personnages écrit un livre sur ça, donc c'est peut-être.
Le secret des arbres.
Ouais. Je crois qu'il s'est inspiré pour le livre de Patricia qu'elle écrit de la vie secrète des arbres, bon, il me semble.
Clairement, on y pense. Et à la fois, malgré tout ça, c'est quand même surtout un livre sur les hommes qui parle beaucoup des êtres humains et de leurs relations compliquées, de leur psyché difficile. C'est tous des êtres un peu cassés qui sont présentés. Et c'est là qu'il est le plus touchant, je trouve, le plus intéressant. J'ai quand même quelques... bémol, encore une fois, mais là, cette fois-ci, peut-être plus prononcé que pour le livre d'Eddy Kadour, c'est que je le trouve un peu fouillis parfois. Et pour reprendre des métaphores forestières, je pense qu'il aurait fallu élaguer un petit peu le livre.
D'accord.
Parce qu'on s'y perd un peu et on perd même parfois la force du propos qu'il veut tenir avec ces multiples intrigues qui se lient les unes aux autres, mais parfois on. Vu que ça se passe aussi sur un temps assez long, on perd un peu la force de certains fils narratifs. Et vers la fin, il y en a même où on se demande un peu, bon, bah, tout ça pour ça, pour certaines choses. Et là où le livre aurait pu être vraiment un coup de poing assez ravageur, je trouve qu'il se perd dans sa propre ambition formelle et que c'est peut-être un peu dommage.
C'est à moi de dire si j'ai aimé. Oui, non, je l'ai déjà dit.
Tu l'as déjà dit, mais...
non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Mehdi. J'ai trouvé que c'est, par moments, c'était quand même assez fouillis et on a du mal à suivre parce qu'on alterne entre des passages qui concernent les personnages. Leur histoire avance, mais en même temps pas. Et puis après, on va avoir pendant de nombreuses pages la description de tel arbre et on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que... Je pense que c'est sûrement fait exprès pour perdre le lecteur et que le lecteur ait l'impression que l'homme n'est pas au centre du livre, à l'image du monde dans lequel on est, finalement, que l'homme n'est pas au centre de tout et qu'au final, c'est l'arbre. Mais je trouve qu'à lire, c'est vrai que c'est bien pour des bons lecteurs. Je pense que si on est quelqu'un qui ne lit pas beaucoup et qui n'est pas habitué à des livres de ce type, il vaut mieux éviter, à mon avis.
Et c'est dommage, parce que c'est justement le genre de livre qui a une portée à avoir un impact sur le monde. Enfin, clairement, la façon dont c'est écrit, ce qu'il dit, le message qu'il porte, c'est un livre militant. Pas militant au sens dogmatique ou didactique. Au contraire, la plume est assez intelligente et nuancée. Mais par contre, c'est clairement un livre qui veut avoir un impact sur la façon dont on perçoit le monde et je trouve qu'il ne va pas toucher beaucoup de gens à cause de ce côté un peu difficile d'accès.
Oui, et je rebondis là-dessus, mais je trouve que pour s'intéresser à ce livre, et déjà quand on voit l'épaisseur du livre, il faut déjà être intéressé par le sujet de l'arbre. Ce qui est un peu dommage parce que pour des personnes, par exemple, toi, Victoria, tu le disais, qui sont intéressées par la cause écologique, en fait, on... Comment dire ? C'est pas qu'on apprend rien, mais Quelque part, quand on a un petit peu de connaissances en écologie, on connaît l'importance des arbres.
On avait déjà envie de brûler des bâtiments. Et...
Oui, c'est ça. Mais déjà, non, mais voilà, enfin, je dis pas que j'ai brûlé des bâtiments, mais on a déjà fait des actions de militantisme écologique. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et ce livre, il aurait pu viser un public plus large s'il avait été plus élagué.
Moi, je l'ai pas fini. Et j'ai lu assez rapidement la fin. Enfin, Mais en tout cas, moi, dès le début, j'ai trouvé que c'était assez bien écrit, vraiment bien écrit. Et j'aime beaucoup, des fois, ce renvoi que l'auteur fait dans le futur, mais en parlant dans le présent. Et ça permet aussi de pouvoir se projeter, se dire « Ah oui, ça, il m'en a parlé au début, et je me souviens qu'il l'a dit. » Et moi, ce livre, je suis pas à 100% d'accord avec vous. En fait, il m'a permis moi-même de rêver et de me remettre en question sur. Je me suis surprise à me dire. Mais en fait, même pas consciemment de conscientiser des choses que j'aimerais faire, etc. Mais vraiment, ça m'a permis de m'évader complètement. Et pas seulement quand on parle des arbres, en fait, dans le début. Bon, on parle toujours des arbres. Mais dans le début, quand il décrit les personnages, j'étais vraiment avec les personnages.
Et puis, voilà, je trouve que quand tu lis le livre, après, c'est vrai que tu regardes les arbres différemment. Enfin, tu regardes un peu de manière cliché, mais dès que tu vois un arbre, tu fais « Ah, ça doit être un chêne !» Je connais rien en arbre, malheureusement. Mais...
C'est vrai que moi aussi, par contre, je suis incapable de faire la différence entre différents types d'arbres. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'il y ait des images dans le livre pour comprendre.
Oui, ça aurait été parfait, ça.
Mais du coup, en fait, aussi, dans ce livre, il y a justement plein de personnages qui ne sont pas sensibilisés, hyper sensibilisés aux arbres.
Pas du tout, même.
Qui ont un lien à un moment donné avec les arbres, comme tout le monde a un lien à un moment donné avec les arbres.
C'est ça.
Et qui, au fil de l'histoire, se rendent compte à quel point c'est important et crucial de les protéger. Et qui créent vraiment un lien avec les autres par rapport à ça. Alors qu'eux-mêmes n'étaient pas sensibilisés complètement à ça.
Je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que ce livre emporte un peu plus le lecteur pour peut-être pas avoir cette révélation-là, mais moi, je me suis sentie moins proche des personnages que toi, par exemple. Parce qu'on a vraiment l'impression de lire une histoire. Je trouve qu'on a du mal à se dire « Ah, mais oui, c'est vrai, tiens, moi, j'ai un rapport aux arbres qui est celui-là. » Enfin, je sais pas, il m'a moins emporté, en tout cas.
Et je trouve qu'il y a trop de personnages. Surtout qu'ils sont, je pense, un peu redondants. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il y en a un ou deux que j'avais tendance à confondre sur certaines. J'étais obligé de me dire, attends, lui, c'est celui qui a fait ça.
Moi, je me suis fait des notes.
Ah, tu étais, ouais, voilà. Parce que je le trouvais un peu complexe, parce que justement, tu as beaucoup de personnages, dont certains qui ont quand même des parcours un peu similaires, qui font que, bon, je pense qu'il aurait pu assez facilement s'en passer d'un ou deux.
On a deux personnages qui sont tombés dans un arbre ou qui sont tombés dans un arbre.
Oui, c'est ça. Bon, oui, je suis d'accord.
Qui sont infirmes.
Mais là où je le trouve très fort, en revanche, c'est dans la gestion du temps. Et ce qui fait que même si on... Quand je pensais encore que c'était quasiment un format de nouvelle, j'en ai trouvé certaines très, très fortes parce qu'il arrive, et ça marche très bien en plus avec le thème de son sujet, c'est l'échelle humaine versus l'échelle des arbres et donc des temporalités très, très différentes. Et rien que le tout début du livre où il trace le destin d'une série de générations par des descendants, etc. En quelques pages, il balaye l'histoire de l'Amérique, qui est d'ailleurs un des fils rouges du livre, toute l'histoire de l'Amérique. Au début, on est 19e siècle, je crois, et à la fin, il y a une importance de la technologie, intelligence artificielle, etc. Donc, il s'amuse aussi à dessiner en toile de fond l'histoire des États-Unis. Mais la façon dont il gère les temporalités, je trouve que ça rend beaucoup de passages assez vertigineux. Et ça fonctionne très bien avec le vertige de ces arbres immenses, de ces arbres qui nous contemplent et qui voient nous, humains, se débattre jusqu'à notre mort certaine. Et ça crée aussi des moments de choc. Tu parlais, je crois, à un moment de choc dans le livre. Moi, j'en ai même eu plusieurs avec parfois juste des petits personnages secondaires,
Mais par exemple, il va raconter le destin d'une fille et son père va mourir brutalement au bout de 10 pages. Et c'est fort, oui. Je trouve, dans la façon dont il le décrit, parce que justement, il arrive à jouer avec la temporalité de tous ces personnages, de leur destin, de leur vie, etc.
Mais justement, moi, ça me fait penser à ce que tu dis sur la temporalité. C'est que je trouve que justement, dans ce livre, c'est pas vraiment les humains qui sont... Enfin, toi, tu disais que c'était les hommes qui sont au cœur. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment les arbres qui sont au cœur, à l'image de tous ces passages très longs de descriptions d'arbres. On a l'impression que les humains, tu le verras à la fin, Victoria, mais les intrigues ne sont pas tout à fait bouclées. On ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, où est-ce qu'ils vont. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est les arbres sont... Enfin, l'échelle arbre est plus importante que l'échelle humaine et les arbres nous survivront, etc. Enfin, je trouvais que c'était quand même plus axé sur l'arbre que sur l'humain. Même si c'est pas facile à amener, du coup. C'est pour ça que je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent vraiment apprécier le livre, parce qu'il faut vraiment s'accrocher, quoi.
Et je trouve ça intéressant aussi que ça soit uniquement ciblé sur les États-Unis. Parce qu'en fait, on pourrait avoir des visions... après, on a plusieurs cultures aussi qui sont représentées. Mais je trouve que... je trouve que c'est un choix. Et je trouve que c'était... Bon, encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais on aurait pu imaginer d'avoir différentes représentations de l'arbre dans différents coins du monde, qui auraient pu être aussi intéressant. Là, on est vraiment ciblé sur les États-Unis.
Oui.
Et oui, et tu parlais des destins, des chocs, des mini-chocs dans chaque histoire. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, j'en ai eu aussi. Et des fois, je me suis dit, en fait, au fur et à mesure de lire ces petites nouvelles de la vie des gens, mais pourquoi autant de tristesse, autant de choses difficiles que les personnages vivent, en quoi ça va faire que l'histoire est encore plus intéressante? Je sais pas si ça a vraiment une plus-value, en fait, dans cette histoire.
Moi, en lisant, ce que j'en ai compris de ça, c'est que c'est les coups reçus par ces personnages qui, à chaque fois, en fait, les dévient de la normalité, et que s'ils n'avaient pas reçu ces coups... ils auraient été des êtres humains consommateurs comme les autres et qui ne se seraient pas posé la question. Et c'est le fait d'avoir des parcours de vie accidentés qui les pousse à se remettre en question, soit eux, soit la société dans laquelle ils sont, etc. Et qui font qu'ils vont tomber sur cette question de l'arbre et de leur rapport au monde. Mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de trucs durs à lire...
Parce qu'il y en a pas un qui a une vie facile.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé justement qu'en fin de compte, dans les personnages, comme il y en a beaucoup, certains prennent conscience des choses, mais la plupart, en fait, c'est pas dit explicitement. Enfin, par exemple, le personnage de Douglas, on le voit pas se dire « Ah, mais l'arbre est super important pour moi ». En fait, sa vie se met à tourner autour d'un arbre, mais en réalité, je pense qu'il le conscientise pas. Enfin,
parce qu'à la base, il est attiré par une femme. Mais... « Ah, ils m'ont sauvé la vie deux fois, parce que... Mais... » Concrètement, parce que il est sauvé, parce qu'il s'attrape un arbre alors qu'il allait mourir. Et il a ce rapport presque, lui, concret de « j'ai été sauvé par des arbres ».
Oui.
Mais c'est différent. Et puis, il y a cette prise de conscience aussi quand il passe à côté d'une forêt et qu'il voit que
tout
a été détruit. Oui. Et il dit...
C'est à l'image de chaque personnage. Ce n'est pas vraiment des prises de conscience comme on peut l'imaginer, où il se dit « je vais devenir écolo ». En fait, c'est ça que je voulais dire, c'était plus dans ce sens-là.
Oui,
mais Douglas, c'est pas celui aussi qui replante tous les arbres à un moment?
Oui.
Bah, là, il y a une...
Oui, c'était pas le bon exemple, Douglas, ok.
mais Ray et Dorothy.
Bah, lui, c'est le meilleur exemple, je trouve. Parce que eux, c'est vraiment quand ils ont le truc affreux qui leur arrive, qu'ils ont le déclic absolu. Et eux, c'est le plus clair, je trouve.
Oui, eux, c'est clair. Mais par exemple, des personnages comme...
Ah oui,
c'est pour ça.
Oui, pardon, Victoria.
Je pense que tu as défoncé.
Attends, je pourrais le baisser.
Je sais pas, moi, je pense par exemple à Olivia, si on parle pas de Douglas, mais Olivia, qui en fait elle décide pas de protéger les arbres. En fait, ce sont des voix qui lui parlent parce qu'en fait elle est un peu schizophrène, on a l'impression. Oui. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est pas des prises de conscience comme on peut l'imaginer de quelqu'un qui se dit ah, la terre brûle,
c'est pas rationnel.
Voilà, exactement, c'est beaucoup plus
et les gens sont
Je sais pas si c'est onirique le bon mot, mais c'est...
Oui, mais il y a un peu de métaphysique aussi, ah ouais. Il y a un peu de tout dans ce livre. Beaucoup. Mm. Mm.
Et les gens sont entraînés par les gens, tu vois,
oui.
Pour aller dans ce que tu dis.
Oui.
Par exemple, Mimi. Non, Mimi, elle a quand même...
Non, mais Nick.
Nick, totalement.
Nick, c'est ce qu'il...
Mais après, il peint quand même que des arbres.
Depuis toujours.
Depuis toujours, tu vois.
Et il a un héritage familial. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce livre, moi, j'ai eu très peur à un moment qui est un peu le côté, et il l'a un peu, hein, mais le côté New Wave des années 60, où tout était très... le rapport à la nature, l'homme fait partie d'un tout, le côté un peu holistique de notre rapport au monde, etc., qui a abouti quand même à beaucoup de choses un peu éculées et pénibles à lire sur notre rapport à la nature. Qui, moi, peut vite me brusquer quand je les lis dans des livres de développement personnel ou ce genre de choses qui... il faut repenser son rapport à la nature, etc. Alors que derrière, il n'y a rien de, ni de politique, ni de réel débouché sur ça. Là, je trouve que le livre évite ces écueils-là parce qu'il est à la fois très... très concret sur les arbres et ce qu'ils font et ce qu'ils apportent à l'homme. Il y a des passages métaphysiques oniriques, mais qui sont aussi très, très bien gérés, je trouve. Et ce qui fait que c'est un livre qui n'essaye pas non plus de nous forcer à penser quelque chose d'extérieur, mais qui nous amène plutôt à réfléchir à notre façon de nous penser par rapport au monde et qui le fait plutôt bien.
C'est vrai, complètement d'accord. Après, je trouve quand même qu'il y a ces passages que tu décris métaphysiques, oniriques. Des fois, ils sont quand même un peu longs, quoi. Enfin, bon, surtout à la fin. Moi, à la fin, j'avais un peu de mal quand il y a un parallèle entre l'IA et l'arbre.
Bon. Mais...
Là, franchement, ça devient difficile à comprendre. Quoi.
Je suis d'accord. Et je vous demande donc si vous recommandez l'Arbre Monde, Charlotte.
Oui, je le recommande.
Victoria.
Bien sûr.
Et je le recommande aussi, c'est une lecture assez passionnante.
Est-ce qu'on aurait préféré lire 5 filles et un jean, le doute reste entier.
Ça n'aurait pas annulé l'arbre monde, ça aurait annulé les prépondérants, donc.
On ne saura jamais.
On ne saura jamais.
Et Victoria, tu as un petit extrait à nous lire?
Bien sûr.
Nous t'écoutons.
La particule de son moi personnel rejoint enfin tout ce dont elle a été coupée. Le grand dessin du ver proliférant. J'étais simplement sortie me promener et j'ai finalement décrété de rester dehors jusqu'au coucher du soleil. Car sortir, comme je l'ai découvert, c'est en fait rentrer en moi. Elle lit Taureau à la lumière du feu de camp.
Taureau.
Elle lit Taureau. On dit taureau ?
Oui.
Taureau, c'est l'animal avec les
cornes. Ah oui.
Elle lit taureau. J'ai vu Zorro dans ma tête.
Elle lit Zorro.
Je pense que tu vas être bonne pour recommencer, là.
Non, elle lit, c'est bon.
Okay.
Elle lit taureau à la lumière du feu de camp. Ne suis-je pas en intelligence avec la terre ? Ne suis-je pas en partie moi-même feuille et moisissure végétale ? Et puis, quel est ce titan qui me possède ? Parlez donc d'un mystère. Pensez à notre vie dans la nature. Chaque jour, se voir offrir la matière, entrer en contact avec elle. Les pierres, les arbres, le vent sur nos joues, la terre ferme, le monde réel, le sens commun. Contact, contact, qui sommes-nous ? Où sommes-nous ?
Très bien. Merci Victoria. Et nous allons passer à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations.
Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zami. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi.
La recommandation, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs et chroniqueuses sont libres de recommander ce qu'ils souhaitent. Et c'est Charlotte qui va commencer.
Alors moi, je vous recommande une série qui est actuellement sur Netflix et qui s'appelle Beef, ou en français Acharné, série américaine avec des acteurs pour la grande majorité d'origine asiatique, que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti en 2023. Je peux rapidement vous...
Oui, pitcher, bien sûr.
Pitcher la série. Cette série commence sur un road rage entre deux personnes complètement différentes appartenant à des mondes opposés. Donc une femme d'affaires très riche dans une très belle voiture et un homme à tout faire, artisan un peu raté.
Je crois qu'il faut que tu expliques ce qu'est un road rage.
J'explique ce que c'est un road rage pour les auditeurs. Un road rage, c'est quand ça se traduit par colère de route entre deux automobilistes qui vont se lancer dans une sorte de course-poursuite comme il peut y avoir des fois sur la route quand quelqu'un vous a fait une queue de poisson, par exemple. Voilà. Et l'intérêt de cette série, c'est surtout qu'elle elle aborde des sujets que je trouve peu abordés dans les séries actuelles, à savoir le fait de se demander quel est le sens de notre vie à nous, génération des millennials.
Oui, parce que on est millennials, oui.
Oui, millennials. Enfin, à la génération actuelle qui se demande un peu où elle va et si ce qu'elle fait est bien pour elle.
Eh bien, ça donne envie. Merci, Charlotte. Moi, je vais vous recommander un petit jeu sur Internet qui peut se faire tous les jours si vous aimez le cinéma et plus particulièrement le cinéma américain. Ça s'appelle Movie Grid, grid, G-R-I-D, .io. Et tous les jours, on a une grille de 9 cases. À gauche, sur les lignes, vous avez 3 acteurs. Et en haut, vous avez des critères. Donc, par exemple, film dont le titre commence par une voyelle, film faisant plus de 100 millions au box-office, etc. Et donc, l'objectif est de remplir la grille avec 9 films qui répondent à l'intersection de chacune des lignes et colonnes, avec comme petite subtilité que si, plus on met un film qui n'est pas donné par d'autres personnes, plus on met de points. Donc, il faut essayer de trouver non seulement remplir, on n'a que 9 coups, donc dès qu'on se trompe une fois, on perd un coup. Et si on remplit la grille, le but du jeu, c'est aussi de mettre les films les plus inconnus possibles pour essayer d'optimiser le nombre de points. C'est extrêmement difficile, mais c'est assez amusant si vous suivez le cinéma américain assez récent, parce que ça se focalise sur cette période-là. Pas de Louis de Funès ni de Jean Gabin, on est sur du Matthew McConaughey ou Jack Guinéal.
Sylvester Stallone.
Ouais, peut-être même un peu vieux, mais si, Sylvester Stallone doit y être. Donc, c'est celui d'aujourd'hui. Vas-y, dis les trois d'aujourd'hui.
J'ai regardé en direct.
Dis les trois d'aujourd'hui, alors.
Parce que ça me donne très envie, ce jeu. Dustin Hoffman, Jennifer Connelly et Sylvester Stallone.
Voilà, donc c'est un exemple. Et toi, Victoria, quelle est ta recommandation ?
Alors, moi, je vais recommander le podcast Un podcast à soi, donc, qui est un podcast de Charlotte Bien-Aimée et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Donc, c'est un podcast qui parle de féminisme, qui parle d'égalité entre les femmes et les hommes, qui parle de genre et qui questionne des personnes, soit expertes sur des sujets, soit qui vivent des situations et qui peuvent parler de leur vécu sur différents sujets. Je pense par exemple à un épisode sur la prison pour les femmes, par exemple, comment c'est vécu par les femmes, etc. Et vraiment, c'est des sujets divers et variés pour les personnes qui sont engagées dans le féminisme ou non. Voilà.
Oh, tu peux redonner le titre ?
Un podcast à soi.
Très bien. Merci, Victoria. Et on en a donc fini avec les recommandations et avec cette partie du podcast. On va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort des livres du mois prochain, mais cela sera avec les chroniqueuses du mois prochain. Je vais donc d'abord dire au revoir à Victoria et Charlotte. Merci d'être venues.
Merci beaucoup, Mehdi. À bientôt.
Merci.
Et on passe au tirage au sort. Bon. Et nous passons à la dernière partie de l'épisode, le tirage au sort. Mais cette fois-ci, je serai accompagné évidemment des chroniqueuses du mois prochain. Bonjour Marie et bonjour Milena.
Bonjour Mehdi.
Bonjour Mehdi, bonjour Milena.
Bonjour Marie. Et je vous rappelle les règles du tirage au sort. J'ai une liste compilée de toutes les propositions des auditeurs et auditrices dans un fichier Excel de toute beauté. Nous allons tirer au sort deux livres, deux romans et une BD. Et chacun des chroniqueurs et chroniqueuses ici présents a le droit à un veto pour se débarrasser d'un livre dont il ne veut pas. Vous êtes prête ?
Oui.
Oui.
Alors, le premier livre tiré au sort est un livre français qui a été écrit en 1934, mais qui n'est paru qu'en 2022. Il fait 192 pages, s'appelle « Guerre » et est écrit par Louis-Ferdinand Céline. Okay. Milena, est-ce que tu mets ton veto ?
Ah, mais attends, mais du coup, je peux pas mettre mon veto à la fin ?
Non, c'est maintenant que tu décides.
Et Marie, elle pourra mettre son veto quand même ?
C'est
un veto. Non, mais attends, c'est un veto pour nous deux.
Attendez, mais... attendez. C'est 192 un veto par personne. Pages. Non, mais c'est 192 pages poche, enfin version poche, folio.
Par exemple. Je sais pas ça.
Ah, mais c'est pas très gros ça, 192
c'est
pages.
C'est pas très gros. Et donc, Milena, pour répondre à ta question, tu as un veto personnel. Si tu le mets, tu ne pourras plus en mettre sur les autres œuvres, mais Marie pourra en mettre sur les autres œuvres.
Ouais.
Wow, ça a l'air chiant.
Donc là, c'est à toi de...
Surtout, enfin, voilà, Louis-Ferdinand Céline, il est connu aussi pour son antisémitisme. Alors, bon.
Tout à fait.
Est-ce que je le cancel ? Est-ce que je le
censure ? Sachant que ça peut être un livre pire ensuite, c'est ça, hein ?
Oui.
Ah bah bien sûr, bah oui, non mais bien sûr, je sais.
C'est peut-être Mein Kampf après, donc c'est possible.
Ouais. Non mais j'en doute pas qu'il soit sur ta liste. Non mais écoute, ouais, je le sens bien, allez, je mets mon veto d'emblée.
Premier veto mis par Milena. Nous n'irons donc pas Guerre de Louis-Ferdinand Céline.
Il faut l'enlever.
Milena, tu n'as plus voix au chapitre.
D'accord.
Le deuxième livre tiré est là aussi un livre français paru en 2022. Il fait 208 pages, a été écrit par Julia Deck et s'appelle Monument National. Marie, est-ce que tu mets ton veto ?
Ouah, mais c'est l'enfer ce truc. Et c'est un, on sait, c'est un roman, c'est pas un essai, c'est un roman.
C'est un, ah oui, tu as le droit à cette précision-là, je vérifie vite fait.
Julia Deck, t'as dit qu'elle était française ?
C'est un roman.
Bon allez, vas-y, go.
Pas de veto ?
Non, roman de 108 pages, un récent, je me dis.
Très bien. Ouvrage suivant, je ne mets pas de veto non plus, donc nous le lirons. Ouvrage suivant, paru en 2023, il est français là aussi, écrit par Violaine Béraud, il fait 96 pages. Et s'appelle Nuit de noces.
Oui.
Comment Marie... tu l'appelles, Béraud ? Pardon ?
B-E-R-O-T.
Ok.
Ça me dit
Marie,
quelque
chose. Marie, est-ce que tu mets ton
veto ? Non.
Moi non plus. Donc, nous avons nos deux romans. On va passer à la bande dessinée. Premier tirage.
Bon, moi, je suis contente quand même que ce soit que des femmes pour l'instant. Je tiens à le préciser.
En effet.
Ouais, voilà. C'est bien.
Ouais.
Et on ne continue pas sur cette lancée pour l'instant, puisqu'avec les BD, le premier que j'ai tiré est une BD française qui date de 1997. Elle fait 80 pages, avec Didier Daninx au scénario et Tardy au dessin. Il s'agit de Le Der des Der.
Mm-hmm.
Marie,
voilà,
est-ce que
on
tu
peut...
mets ton veto ?
Moi, j'ai envie de mettre mon veto, parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a. J'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de voir ce qu'il y a à côté.
Très bien. Veto utilisé. Il n'y a plus que moi qui ai un veto. Prochaine œuvre tirée. Nous vient du Japon. Il s'agit donc d'un manga qui date de 2009. Il fait 284 pages et s'appelle Underwater, le village immergé de Yuki Urushibara. Et donc, je pense que c'est aussi une femme. Je couperai ça au montage si ce n'est pas le cas. Et je ne mets pas mon veto. Donc, nous avons nos trois œuvres. Monument National de Julia Deck, Nuit de noces de Violaine Béraud et Underwater, le village immergé, tome 1 de Yuki Urushibara.
C'est bien, c'est bien.
Je vous dis à dans un mois pour en discuter. Bonne lecture.
Un mois, 2 mois. Tu nous as laissé 2 mois, Mehdi.
C'est pour les auditeurs et auditrices.
Ah non, on fait grève, nous. Hein.
Ne t'inquiète pas. Je vous dis donc à dans un mois et d'ici là,
merci,
bonne lecture.
Merci Mehdi.